Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en conférence TF1. Je laisse à présent la parole à monsieur Paolini. Monsieur, c'est à vous.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour les commentaires qu'avec Philippe Denry, nous allons apporter sur nos résultats de ce premier semestre 2011. Vous le constatez, dans un climat économique assez chahuté, la performance du groupe TF1 est bonne sur ces six derniers mois et en ligne, en tout cas, avec nos attentes. Certes, le chiffre d'affaires subit une très légère baisse tant en consolidé que sur l'antenne TF1, mais le résultat opérationnel progresse de façon très significative, avec une marge opérationnelle qui s'établit sur le premier semestre à 187 millions d'euros, soit 14,6% de croissance, avec un résultat net à 117 millions d'euros, soit 9,1% de marge nette. Et ces chiffres démontrent que la révision du modèle économique entreprise il y a maintenant près de 4 ans porte ses fruits, même dans une conjoncture moins favorable, comme vous avez pu la vivre et la constater. Avant de laisser la parole à Philippe pour le détail des comptes, voici ce que l'on peut dire de l'activité du groupe sur ce semestre. Alors d'abord, au chapitre de la situation du marché publicitaire, un constat s'impose, on l'avait d'ailleurs remarqué l'année dernière, c'est que la télévision reste le premier média investi et confirme ainsi la confiance que les annonceurs ont dans son efficacité, avec un taux de croissance de 12,3%. Alors dans ce contexte, l'alimentation, l'hygiène beauté, l'automobile, la santé, le voyage et la distribution ont progressé à contrario de l'entretien, de l'édition, des télécoms et des services financiers qui marquent le pas. Alors la croissance du chiffre d'affaires brut de la télévision reste toujours portée par les chaînes de la TNT, dont le dynamisme ne se dément pas avec une croissance brute de 36,4%, et les chaînes du câble et du satellite retrouvant l'intérêt des annonceurs puisqu'on constate une progression de 17,4%. Sur la TNT, le switch-off continue de produire ses effets et il nous reste maintenant trois régions à numériser d'ici le mois de novembre 2011. Ce sont des régions du sud de la France. Dans un contexte économique plutôt morose avec une consommation des ménages en baisse en avril et en mai de respectivement -1,4% et -0,8%, notre chiffre d'affaires publicitaire du T2 progresse légèrement en dépit d'un effet de base peu favorable. Rappelons-nous qu'en 2010, les mois de mai et juin avaient été marqués par de forts investissements liés à la Coupe du Monde de football, notamment dans le domaine du parrainage. Rappelons que cette performance de +0,7% fait suite à une croissance de +10% de T2 2010 et que le -0,9% du semestre est à comparer à une croissance de +11% au premier semestre 2010. Il s'agit donc d'une très bonne performance commerciale, en tout cas on en est très satisfait, et notre régie poursuit sa stratégie de reprise de valeur. Au total, en dépit d'un mois d'avril décevant en audience, mai-juin, on retrouvait un haut niveau d'audience, notamment en access et en prime, qui sont, vous le savez, les éléments essentiels de notre stratégie de programmation. Alors s'agissant de la consommation télévisuelle, juste avant de voir nos chiffres, le début de l'année a été marqué par un record et confirme la bonne attractivité du média. On constate une progression de 7 minutes à 3h54 sur la cible privilégiée des femmes et de 12 minutes à 3h47 sur les individus. On constate une fois de plus que la télévision reste le premier investissement, plus exactement, l'obsession de l'investissement, c'est ça, des Français. Dans ce contexte général, TF1 reste l'offre majeure du paysage audiovisuel, sans aucun équivalent, comme en témoignent ces chiffres, et notamment les 50 meilleures audiences, toutes chaînes confondues, que nous continuons à maintenir. Alors, la chaîne poursuit ses records en matière d'audience dans tous les genres, ce qui est sa vocation de grande chaîne généraliste et familiale, avec, vous le voyez, des scores très impressionnants pour un marché où désormais, près de 100% des foyers disposent d'au moins 19 chaînes. Et ceci dans un contexte où le coup de grille a été parfaitement maîtrisé. En effet, avec 423,6 millions d'euros, c'est le coup de grille le plus bas depuis le SA 2005. Chez OT1, nous avons en particulier tenu compte de la saisonnalité des investissements publicitaires pour adapter nos dépenses de programme aux prévisions de recettes. Au T2, nous avons davantage investi selon notre plan de marche prévisionnelle. Alors aujourd'hui, il faut analyser la situation du groupe en appréciant la performance globale de ses antennes en clair, et plus simplement de TF1. En effet, on constate que le cumul des audiences de TF1, TMC et NT1 est stable sur un an grâce à la progression de ces deux dernières chaînes. C'était un de nos buts que de retrouver une audience globale à ses hauts niveaux de performance. L'objectif est atteint, avec un cumul à 29% sur les individus et surtout à 32,9%, presque 33% sur la cible des femmes responsables des achats. Et c'est pour nous un résultat très positif dans un contexte concurrentiel extrêmement vif. Alors à propos de TMC et NT1, on peut noter la très sensible progression de TMC sur les deux cibles, ce qui confirme sa vocation de chaîne familiale et les scores remarquables obtenus par NT1, qui commence à affirmer sa notoriété et à fidéliser les jeunes adultes. Là aussi, nous sommes tout à fait dans notre plan de marche. TMC demeure la cinquième chaîne nationale en progression constante, avec le record absolu sur le premier semestre des chaînes de la TNT lors d'un prime à 2 millions de téléspectateurs, et 70 programmes en prime time à 1 million et plus, avec une moyenne désormais de 900 000 téléspectateurs, ce qui est évidemment un très très beau résultat. NT1, c'est aujourd'hui la plus forte progression sur les 15-34 ans, avec des primes en moyenne de 600 000 téléspectateurs, et la montée en puissance de NT1 se confirme. C'est ce que nous vous avions décidément annoncé. Eh bien, vous voyez que ça se traduit dans les chiffres. Ce premier semestre marque aussi la bonne forme des chaînes payantes du groupe. TV Brest est au mieux. C'est la chaîne numéro 1 du câble et du satellite. Elle est extrêmement rentable. LCI obtient ses meilleurs résultats d'audience depuis 2004, sans parler de sa notoriété à 73% des personnes interrogées, et son repositionnement éditorial est une totale réussite qui lui donne ainsi la quatrième place des chaînes payantes sur les CSP+. Elle vient de la 11e place, ce qui prouve une progression tout à fait remarquable. Eurosport est une marque incontournable, j'y reviendrai. Histoire, Ushuaïa et Stylia progressent notablement, et TF6 et Série Club aussi. C'est donc une offre riche et attractive qui confirme sa vocation d'offre d'affinité de haute qualité. Alors un mot sur Eurosport. Eurosport, vous connaissez bien cette entreprise, mais on peut dire aujourd'hui que c'est devenu un groupe de chaînes disponible sur un très large bassin et dans de nombreuses versions. C'est aussi une plateforme multimédia avec des applications gratuites et payantes sur tous les devices, avec 4 millions de téléchargements en un an et demi, ce qui est un score tout à fait intéressant. Enfin, c'est aussi une entreprise experte dans l'organisation, la gestion et la promotion des manifestations sportives. Et sur l'univers du payant en France, Eurosport est la chaîne sportive qui progresse le plus fortement en audience, plus 19% sur un an. C'est aujourd'hui la troisième chaîne payante sur les 4 ans et plus. Venons-en à la diversification, et nos diversifications confirment leur solidité. TF1 Entreprises continue à connaître le succès dans le secteur de la musique, avec le second album des prêtres déjà triple disque de platine et le triomphe de Mozart à plus d'un million cent mille spectateurs en salle. Sur les games, l'application iPhone, iPad du Melbourne a été lancée le 19 juin et s'est classée numéro 1 sur iTunes dès sa sortie. Le ticket avec la Française des Jeux, le ticket Melbourne Française des Jeux, s'est donc vendu à 20 millions d'exemplaires, apportant avec ses royautés une très forte marge à TF1 Entreprise. ITF1 dégage un ROC positif et Watt atteint la rentabilité sur ce semestre. Quant à TF1 Film Production, eh bien, elle a de très beaux succès à son actif, puisque 8 films sont plus que millionnaires en entrée depuis le début de l'année. En revanche, Téléshopping connaît un début d'année plus difficile, mais place des tendances, notre site de e-commerce d'habillement moyen haut de gamme progresse fortement et nous en sommes très satisfaits. Enfin, le pôle audiovisuel reste en retrait malgré les bonnes performances de TF1 Vidéo, et notamment avec la vidéo On Demande qui s'affirme comme un relais de croissance tout à fait intéressant. Quant à TF1 Droit Audiovisuel, l'élimination des reventes intra-groupes à TMC et NT1 et la diminution des films exploités en salle expliquent la baisse de l'activité, mais Philippe y reviendra dans ses commentaires. S'agissant de la responsabilité sociétale de l'entreprise, vous le savez, nous avons une politique très active dans tous les domaines, et cette année, je voudrais juste mettre l'éclairage sur l'innovation. C'est la mise en place d'un dispositif d'autopartage de véhicules électriques très prometteur. Voilà pour notre activité que j'ai essayé de balayer le plus vite possible pour laisser la place à Philippe pour qu'il puisse vous détailler les comptes de l'entreprise sur ce premier semestre.
Merci Nonce. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter les comptes consolidés du groupe TF1 au 30 juin 2011. Je vous rappelle que tous les détails des comptes ainsi que les annexes sont disponibles dans le rapport financier semestriel qui se trouve sur le site du groupe TF1. Sur les 6 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'établit à 1,278 milliards d'euros, quasiment stable, moins 0,5%. Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2011 se décompose en 758 millions d'euros pour le chiffre d'affaires publicitaire de la chaîne TF1, soit une légère baisse de 7 millions d'euros, moins 0,9%. Cette performance réalisée au cours du premier semestre 2011 par la chaîne TF1 doit être mise en perspective d'un semestre l'an dernier qui a vu une forte croissance des volumes et la diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Pour mémoire, le premier trimestre 2011 était en recul de moins 2,6% après une croissance de plus 13% l'année précédente. Le deuxième trimestre, lui, affiche une croissance de plus 0,7% après une croissance de plus de 10% au deuxième trimestre 2010. Comme vous l'avez dit, Nonce, vous noterez que les investissements bruts sont en hausse de plus 1% sur le deuxième trimestre, avec un écart brut net qui s'améliore à moins 0,3 points contre moins 5,9 points au premier trimestre, marquant la capacité de la régie publicitaire à reprendre de la valeur dès lors que la demande est soutenue. Le chiffre d'affaires des diversifications s'établit à 520 millions d'euros, stable par rapport au premier semestre de l'année 2010. Ce chiffre d'affaires intègre 48 millions d'euros au titre des cotes-parts acquises dans TMC et NT1. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2010, lui, intégrait 33 millions d'euros de revente des droits de la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Concernant le chiffre d'affaires publicitaire du groupe TF1, il s'établit à 905 millions d'euros, soit une progression de 40 millions d'euros, plus 4,7%, principalement grâce à un effet de périmètre conjugué à une bonne progression des revenus des chaînes TMC et NT1 et des revenus publicitaires sur le web, plus 36%, comme vous le constatez, à 13 millions d'euros. Eurosport International, en l'absence d'événements sportifs forts, tels que ceux diffusés au premier semestre 2010, savoir la Coupe d'Afrique des Nations, les JO d'hiver ou la Coupe du Monde de la FIFA 2010, voit ses recettes publicitaires baisser de 7 millions d'euros à 32 millions d'euros dans une conjoncture internationale fragile. S'agissant du coup de grille de la chaîne TF1, il s'établit à 424 millions d'euros au premier semestre 2011, contre 483 millions d'euros un an plus tôt, soit une amélioration de 59 millions d'euros. Cette baisse s'explique à hauteur de 49 millions d'euros par des économies nettes relatives à la Coupe du Monde de la FIFA 2010, 60 millions d'euros de droits et coûts de production nets de 11 millions d'euros de programmes de remplacement et 10 millions d'euros d'économies sur les autres programmes. Hors événements sportifs exceptionnels, le coût de la grille de la chaîne TF1 s'établit sur le semestre à 424 millions d'euros contre 423 millions d'euros un an plus tôt. Cette stabilité intègre la diffusion au premier semestre 2011 de programmes de remplacement des matchs de football diffusés l'année précédente. Le groupe démontre ainsi sa capacité d'optimisation de sa programmation et de maîtrise des coûts. Les coûts de la plupart des programmes de la grille sont en baisse, à l'exception des programmes d'information, et cela compte tenu d'une activité nationale et internationale très chargée au premier semestre 2011, et puis des programmes de fiction dont le nombre de cases a augmenté au premier semestre 2011. La maîtrise des coûts des programmes et des coûts de structure permet ainsi à la chaîne TF1 de dégager sur le deuxième trimestre 2011 une rentabilité de l'ordre de 22%. Passons, si vous le voulez bien, à l'analyse des charges d'exploitation. Les charges d'exploitation sont en forte baisse de 55 millions d'euros, soit moins 8%, et cela en intégrant 35 millions d'euros au titre des cotes-parts acquises dans TMC et NT1. Au premier semestre 2010, les charges opérationnelles intégraient 50 millions d'euros de droits de la Coupe du Monde destinés à être revendus. Ainsi, le groupe TF1 a généré ce semestre 39 millions d'euros d'économies. Les dotations nettes aux amortissements et provisions s'élèvent à 57 millions d'euros, soit une progression sur un an de 25 millions d'euros. Pour mémoire, l'an dernier, une reprise de provision de 17 millions d'euros relative à la revente des droits de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 avait été comptabilisée au premier semestre. Ainsi, au premier semestre 2011, le résultat opérationnel du groupe s'établit à 187 millions d'euros, soit une progression de 82 millions d'euros par rapport au premier semestre 2010, soit plus 79%. Le résultat opérationnel du groupe comprend 13 millions d'euros au titre de l'intégration des cotes-parts acquises dans TMC-NT1. Par ailleurs, il prend également en compte la médiation intervenue sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris relatif au film Miracle à Santa Ana. Au total, le taux de marge opérationnelle courante s'établit à 14,6% contre 8,1% pour le premier semestre 2010 et 8,8% pour l'ensemble de l'année 2010. Au deuxième trimestre, le résultat opérationnel du groupe s'établit à 125 millions d'euros, soit une progression de 64 millions d'euros par rapport au deuxième trimestre 2010. Le taux de marge opérationnelle du deuxième trimestre s'établit donc à 18,8%. Ces performances confirment, trimestre après trimestre, l'efficacité des mesures prises pour faire évoluer favorablement le modèle économique du groupe. Sur le plan financier, le groupe TF1 étant en trésorerie positive sur ce semestre, le coût de l'endettement financier est nul à comparer au moins 10 millions d'euros un an plus tôt. À fin juin 2011, la charge d'impôt s'élève à 53 millions d'euros, en augmentation de 23 millions d'euros, ce qui est en ligne avec l'augmentation du résultat. L'augmentation du résultat fiscal est minorée par le produit d'impôt constaté lors de la cession de SPS au premier trimestre. La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence s'établit à moins 12 millions d'euros à fin juin 2011, à comparer à plus 7 millions d'euros un an plus tôt. L'écart s'explique par les résultats du groupe AB, lesquels ne sont plus consolidés par mise en équivalence à compter du 1er juillet 2010, et par une provision pour dépréciation de titres passés sur la participation dans Métro France. Le résultat net part du groupe du premier semestre 2011 s'élève à 119 millions d'euros contre 74 millions d'euros au premier semestre 2010. Au deuxième trimestre 2011, il s'établit à 72 millions d'euros contre 41 millions au deuxième trimestre 2010. Au premier semestre 2011, les intérêts minoritaires s'élèvent à 2,4 millions d'euros et correspondent aux 20% détenus par la principauté de Monaco dans TMC. S'agissant du bilan, au 30 juin 2011, le total des capitaux propres part du groupe de TF1 s'élève à 1,530 milliards d'euros pour un total bilan de 3,394 milliards d'euros. Les actifs courants augmentent de 122 millions d'euros du fait d'une part d'avances et acomptes sur événements sportifs et d'autre part en raison de la saisonnalité du chiffre d'affaires publicitaire dont on trouve la contrepartie à hauteur de 81 millions d'euros au passif. La trésorerie nette à fin juin 2011 est de 11 millions d'euros contre 17 millions au 31 décembre 2010. À fin juin 2010, l'endettement financier net s'élevait à 120 millions d'euros. Concernant le tableau de flux de trésorerie consolidé au 30 juin 2011, la capacité d'autofinancement s'élève à 220 millions d'euros, en hausse significative par rapport à la même période de l'an dernier, en ligne avec l'amélioration du résultat. L'amélioration de la capacité d'autofinancement est compensée par l'augmentation des impôts versés et la dégradation du besoin en fonds de roulement du fait principalement des avances sur droits sportifs et de l'augmentation du poste client. Le flux de trésorerie des opérations d'investissement sont en diminution de 208 millions d'euros, l'acquisition des parts complémentaires de TMC et NT1 ayant eu lieu au premier semestre 2010. Enfin, le flux de trésorerie lié aux opérations de financement s'élève à 126 millions d'euros, correspondant au versement du dividende de 117 millions d'euros et à des rachats d'actions propres qui s'élèvent à 6 millions d'euros. Le groupe TF1 bénéficie d'une structure financière solide. La note du groupe attribuée par Standard & Poor's a été relevée le 22 juillet 2011 de BBB perspective positive à BBB+ perspective stable. Par ailleurs, le groupe dispose au 30 juin d'un montant de ligne bilatérale non utilisée sans covenant de 975 millions d'euros.
Voilà pour les comptes. Merci Philippe. Alors au total, vous avez pu le constater pendant la présentation, des comptes faits par Philippe, le groupe TF1 a connu une activité soutenue. Notre résultat opérationnel et notre taux de marge témoignent bien de la qualité et de l'efficacité des efforts déployés dans tous les domaines pour améliorer notre compétitivité et notre rentabilité qui est, vous le savez, pour nous un objectif absolument majeur. Alors le premier semestre étant totalement en ligne avec nos attentes, s'agissant des perspectives, nous confirmons donc l'hypothèse de travail que nous vous avions donné en début d'année et qui est un chiffre d'affaires consolidé stable sur l'année. Nous n'avons pas de raison de revenir sur cette hypothèse. Alors, la saison 2011-2012 sur TF1, elle va s'ouvrir à la rentrée par les nouvelles saisons de nos séries majeures, par des films français à succès, dont vous voyez ici les titres, et des blockbusters américains, et aussi des fictions françaises familiales et qui ont déjà un public extrêmement fidèle, et aussi événementielles, comme Flic est une série policière d'un genre nouveau qui va inaugurer sa deuxième saison. Mais sur cette saison 2011-2012, c'est surtout le retour des marques emblématiques les plus récentes, comme Masterchef et Danse avec les Stars, qui ont connu un très grand succès, comme les marques historiques, par exemple Koh-Lanta, qui doivent consolider nos primes avec des rendez-vous sur plusieurs semaines. L'Access, de son côté, voit arriver des formats innovants, comme le faux journal télévisé humoristique de Nicolas Canteloup, qui est un imitateur humoriste très populaire en France, et ça, ce sera après les journaux télévisés en semaine. Et puis, on peut parler aussi de 7 à 8 versions longues, qui, depuis quelques semaines, réussit très très bien le dimanche à partir de 18h-18h15. La politique va aussi trouver sa place avec Parole Directe après le journal télévisé, une fois par mois dans une période électorale qui s'annonce. Alors, surtout, nous avons un événement majeur. Alors, l'année dernière, c'était la Coupe du Monde de football. Cette année, c'est la Coupe du Monde de rugby, qui va se dérouler du 9 septembre au 23 octobre. Alors, le groupe TF1 a mis en place une stratégie 360, ce qui ne vous surprendra pas. Simplement, précisons que TF1 a revendu 28 matchs sur 48, et donc nous allons pouvoir offrir les 20 plus belles affiches de la compétition, avec évidemment la cérémonie d'ouverture, et en exclusivité les deux meilleurs quarts de finale, les demi-finales et la finale du 23 octobre. Par ailleurs, 18 des 20 matchs seront diffusés en direct le week-end à 8h et à 10h30, avec des pages spéciales dans les journaux télévisés de 13h et 20h, et un journal de la Coupe du Monde de rugby diffusé à 20h30, les veilles et jours de match. Eurosport, de son côté, sera la seule chaîne à diffuser l'intégralité de la compétition et proposera un talk show quotidien, tout comme LCI. Et enfin, TF1 et Eurosport s'associent pour offrir sur le digital à leurs internautes un site commun, on l'avait déjà fait pour le football, prolongement des antennes du groupe avec l'intégralité des matchs en catch-up et les 20 matchs diffusés sur TF1 en exclusivité en live, avec un player vidéo unique sur le marché permettant de contrôler le direct et de revoir les actions principales. Alors, pour ce qui est des perspectives de la régie publicitaire, l'offre de programme de rentrée devrait nous permettre de poursuivre notre objectif de reprise de valeur. La régie va également continuer à déployer sa nouvelle approche client avec la segmentation, un ciblage plus efficace et une démonstration de l'efficacité de ses écrans publicitaires et la mise en place d'offres innovantes à forte valeur ajoutée pour les annonceurs. Vous le savez, nous avons mis à disposition de nos annonceurs l'outil MediaWay, qui est faite en partenariat avec TNS World Panel pour mesurer l'efficacité des campagnes TV sur les ventes en montrant la valeur ajoutée de l'offre publicitaire de TF1, et cela a paru tout à fait probant aux annonceurs qui ont accepté de travailler avec nous dans cette direction. La rentrée sera également marquée par le déploiement du projet Challenge 2012 qu'on a eu l'occasion de vous présenter, et dès septembre, les nouvelles conditions générales de vente seront, elles, présentées au marché. Enfin, l'objectif est également d'accroître le leadership sur le marché de la vidéo en augmentant les inventaires, en maintenant des coûts pour mille élevés et en développant l'offre multi-écran. Et enfin, sur le mobile, nous allons développer notre portefeuille de support applicatif et proposer des formats publicitaires innovants aux opérateurs. Alors, avant de conclure, un bref rappel de notre stratégie que vous connaissez bien maintenant. Autour de notre cœur de métier, la télévision gratuite, désormais constituée de 3 chaînes, nos chaînes payantes progressent, vous l'avez vu, et vont, en sortant de l'exclusivité, nous le croyons, trouver un bassin d'audience encore plus intéressant. Dans le domaine du gratuit pour les consommateurs, les médias digitaux, la télévision connectée et bientôt la presse avec Metro, nous donnent de solides atouts pour compléter notre offre publicitaire et donner à nos annonceurs un éventail de canaux, de contacts, probablement uniques sur le marché. Enfin, nos diversifications sont aujourd'hui rationalisées et relancées, et nos diversifications sont positionnées sur des marchés en croissance, avec à la tête de la diversification des petits entrepreneurs expérimentés. Alors, l'adaptation de notre base de coûts, au contexte économique, à la concurrence et à la saisonnalité, eh bien, passe évidemment par la réduction des frais de structure, la poursuite de l'optimisation de nos moyens et le travail que nous menons jour après jour sur les synergies entre les chaînes du groupe. Et bien entendu, la gestion interne est devenue un véritable projet d'entreprise, vous le savez, je l'évoque souvent, qui est porté par l'ensemble du groupe. Eh bien, tout cela, ce sont les éléments d'un modèle vertueux qui nous permet de convertir une part significative de l'amélioration du chiffre d'affaires, comme vous le voyez sur ce tableau, dans le résultat opérationnel. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire trimestre après trimestre. Enfin, et toujours, si je veux dire, nous poursuivons, et ça n'est pas une surprise pour vous, notre objectif d'amélioration de la rentabilité. Et dans ce domaine, comme dans nos différents métiers, nous ne ménageons pas nos efforts et vous envoyez les résultats. Voilà ce que nous voulions vous dire avec Philippe sur ce premier semestre. Quelques réflexions pour conclure rapidement. D'abord, notre modèle économique s'est adapté à la nouvelle donne d'une économie désormais incertaine et à la prudence désormais chronique des annonceurs. Nos audiences sur TF1 sont parfois chahutées, mais elles restent sans équivalent en termes de puissance et d'efficacité sur les ventes. TMC et NT1, comme nos chaînes payantes d'ailleurs, obtiennent d'excellents résultats en audience comme au plan opérationnel. Notre stratégie digitale, et donc le 360, c'est aujourd'hui une des grandes réussites du groupe TF1, avec ITF1 et Watt à l'équilibre, et MyTF1 profitable. Et maintenant largement distribué sur les box des différents opérateurs. Nos filiales, on l'a vu, sont relancées et rationalisées, et notre offre commerciale n'a jamais été aussi riche. Télévision gratuite ou payante, radio, digitale et désormais presse gratuite. Alors moi je dirais que aujourd'hui je suis d'autant plus satisfait que je vois que nos équipes sont créatives et innovantes dans tous les domaines, des programmes à nos régies publicitaires. Et notre solidité financière, Philippe l'a rappelé, vient d'être saluée par la station de Standard & Poor's et c'est évidemment une très belle satisfaction pour l'ensemble de nos équipes. Pour toutes ces raisons, nous sommes tout à fait confiants dans la capacité du groupe à continuer à progresser. Voilà ce que nous voulions vous dire, peut-être un peu rapidement, mais Philippe et moi, nous sommes prêts à répondre à vos questions, quelles qu'elles soient, et avec plaisir. Nous vous écoutons.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, merci de composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Merci de patienter jusqu'à la première question. Nous avons une question de M. Filippo Lofranco de JP Morgan. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonjour à tout le monde. Félicitations encore pour les résultats. Ça commence à devenir une habitude assez agréable. J'espère que ça va durer. Donc, j'aurais trois petites questions. La première, c'est vraiment sur les rapports entre prix et volume. J'ai l'impression que le volume continue de rester assez fort en termes de demande. Et par contre, sous les prix et sous la reprise des valeurs, je pense que pour voir les résultats de votre politique, de votre nouvelle politique de pricing, il faudra attendre plutôt le quatrième trimestre ou peut-être le premier trimestre de l'année prochaine. C'est juste pour savoir ça. Donc, c'est la première question. La deuxième, est-ce qu'on a des nouvelles au niveau de la réglementation sous la chaîne compensatoire? Moi, malheureusement, je ne peux pas lire tous les jours la presse française, donc je voulais savoir si je ratais quelque chose. Et la troisième chose, c'est plutôt pour Philippe, il y a une forte baisse des coûts de transmission, que moi j'ai dans mon modèle progressivement sous les années à venir. Par contre, au premier semestre, il y a eu vraiment une forte réduction. Et si je maintiens les mêmes proportions de l'année dernière, on devrait avoir un coût de transmission d'à peu près 25 millions d'euros pour l'ensemble de l'année. Je voulais savoir si c'était plus ou moins correct. Merci.
Oui, moi je vais... Bonjour Philippot, bonjour. Je voulais répondre d'abord sur la chaîne compensatoire, parce que c'est un sujet évidemment important pour l'avenir. D'abord, il faut rappeler qu'il y a aujourd'hui un débat entre la Commission européenne et le gouvernement français sur l'interprétation d'une directive paquet télécom que la Commission européenne considère s'imposer au marché français, alors que la France considère que sa politique audiovisuelle échappe à cette directive. Donc là, il y a un débat entre le gouvernement français et l'Europe qui devrait trouver une première phase officielle, probablement au mois de septembre, par un avis motivé de la Commission européenne auquel le gouvernement français devrait répondre. Mais plus généralement, qu'est-ce que je pourrais dire ? Avec M6, on a beaucoup insisté auprès du régulateur, auprès des pouvoirs publics, auprès de la Commission européenne, pour indiquer que le fait d'ouvrir le marché à de nombreuses chaînes sur les deux MUX, c'est-à-dire les deux multiplex qui vont être disponibles, pouvait être considéré comme une mesure un peu hâtive compte tenu des profondes mutations du marché qui se sont opérées dans un délai très court en France, avec, je le rappelle, de nouveaux entrants, ce qui est une particularité française, puisque en Europe, le passage de l'analogique au numérique ne s'est pas vu concrétiser par l'arrivée de nouveaux entrants. Donc cette pause que l'on souhaitait et que l'on souhaite peut être évidemment utile. Cela dit, le vrai sujet, c'est pas tant finalement la multiplication des chaînes qui risque d'arriver, puisque on a un canal compensatoire et que ce canal compensatoire aura toute sa puissance. Mais c'est que, évidemment, Canal+, arrivant sur le clair, il s'agit de lui donner des obligations et des engagements à la hauteur de sa position dominante sur son marché pour rééquilibrer la concurrence qui pourrait s'opérer entre TF1, M6, Canal et les autres entrants. Bon, moi, j'aurais tendance à dire qu'on est prêt à s'adapter à toutes circonstances, éventuellement à la nouvelle norme DVB-T2, qui fait partie du débat, puisqu'on se dit que cette norme européenne pourrait être choisie pour les canaux compensatoires. En tout cas, pour l'instant, on attend les évolutions en matière de relations entre la Commission européenne et le gouvernement français. Nous, on est prêt à toute éventualité. On a les moyens de faire un canal compensatoire de grande qualité et assez puissant. Maintenant, il faudra qu'avec Canal+, on ait l'assurance que la concurrence se fera dans un contexte loyal et équilibré. Voilà au fond l'essentiel de la réflexion autour des canaux compensatoires qui ne nous inquiètent pas, mais qui doivent être distribués dans un contexte de concurrence rétablie, notamment vis-à-vis de Canal. Voilà pour la chaîne compensatoire. Donc je pense qu'on aura des nouvelles après l'été, sans doute en septembre-octobre. L'affaire se dénouera probablement dans ces délais-là. Pour les prix et les volumes, j'ai laissé la parole à Philippe.
Oui, Philippot, bonjour. Oui, sur le sujet prix-volume, on ne donne pas sur ce semestre l'écart volume-prix parce qu'on sait qu'il y a de confusion par rapport à une base de comparaison qui intégrait la Coupe du Monde de football l'an dernier. Ce que l'on peut simplement dire sur le S1, c'est que les volumes sont pratiquement stables après une forte augmentation des volumes l'an dernier sur la même période. Donc on est plutôt à zéro moins, avec une demande qui reste relativement bonne. On a, sur les volumes, une quasi-stabilité sur le S1 et les mois de mai et juin qui sont plutôt porteurs en termes de reprise de valeur. Je signale d'ailleurs qu'en ce qui concerne l'écart brut-net, encore une fois, il y a une amélioration de cet écart brut-net qui était à moins 6, un peu moins de moins 6 en points sur le premier trimestre et qui est pratiquement à zéro sur le T2. S'agissant de la troisième question concernant les coûts de transmission, alors sur le premier semestre, ces coûts de transmission, il y a eu une économie à période comparable de 11 millions d'euros. Il reste à partir du 1er juillet 4 régions, donc pratiquement tout le switch-off a déjà eu lieu et une bonne partie des économies sont prises en compte. Donc le montant de 25 millions d'euros d'économies sur l'année est peut-être un peu optimiste et donc on est sur une base un petit peu plus réduite par rapport aux 25 millions d'euros que vous mentionnez. Voilà ce que je peux dire sur les coûts de transmission.
Oui. Ok. Ok, très bien. Merci beaucoup.
Merci.
Nous passons à la question de Monsieur Bruno Arang de Odo. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonjour. J'avais une petite question sur LCI. Apparemment, vous souhaitez la passer en gratuite, mais je voulais savoir si c'était lié à la chaîne compensatoire ou si c'était complètement indépendant. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous pourriez nous donner une tendance sur la publicité au T3, ce que vous observez. Et ensuite, une troisième question. Est-ce que vous pourriez revenir sur les enjeux liés à la mesure d'audience, donc les changements sur les mesures d'audience et en quoi ça pourrait impacter ou non votre chiffre d'affaires? Merci beaucoup.
Oui, alors s'agissant de LCI, ça ne peut pas être traité dans le cadre des canaux compensatoires pour une raison simple, c'est que la loi indique que ce sont des canaux qui doivent être faits pour encourager la création française en particulier. Donc on est là sur des dispositions législatives et donc du coup après réglementaires qui excluent qu'une chaîne info puisse être un canal compensatoire quoi qu'il arrive. Sur la tendance publicitaire, écoutez, c'est toujours difficile de faire des pronostics. Ce que je peux vous dire, c'est que sur juillet, on a une base de comparaison qui est assez élevée, évidemment, puisqu'on avait la Coupe du Monde de la FIFA en 2010. Bon, la tendance, elle est plutôt bonne sur ce mois de juillet. Et pour le reste, j'aurais tendance à vous dire qu'au fond, aujourd'hui, on n'a pas d'inquiétude particulière. C'est vrai que les annonceurs, je l'ai dit dans ma conclusion, sont de plus en plus attentistes. On a un dernier quadrimestre qui est traditionnellement toujours assez actif. Donc on verra bien, tout ça dépend bien entendu de la conjoncture économique globale. Mais a priori, pour l'instant, vous l'avez vu, nous maintenons nos prévisions, nous n'avons pas d'inquiétude particulière. Alors s'agissant de la mesure d'audience, je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence. En tout cas, si je puis simplement rappeler le sujet des audiences différées qui sont aujourd'hui mesurées par Médiamétrie, c'est assez à notre avantage. D'abord, ça représente de l'ordre d'à peu près 4 minutes en moyenne, ce qui est relativement peu. Vous l'avez constaté, et je vous l'ai dit dans mon exposé, la consommation de télévision n'a jamais été si forte, et c'est vrai que l'audience différée a apporté ce petit surcroît nécessaire. Et en fait, on s'aperçoit que, particulièrement sur les programmes de TF1, notamment sur nos séries américaines, il y a là des gains d'audience qui sont tout à fait notables. Et ça peut aller jusqu'à 8 à 9% d'audience supplémentaire sur les séries les plus populaires. Alors aujourd'hui, ça n'est pas vraiment valorisé. Ça pourrait être valorisable, je pense. Mais en tout cas, ça n'est en aucun cas un danger ou un risque pour les antennes de TF1. À partir du moment où vous avez un programme de qualité, ceux qui n'ont pas pu le consommer au moment où il était diffusé peuvent aujourd'hui en profiter, et on peut aujourd'hui mesurer le nombre de téléspectateurs qui en profitent. Donc ça ne peut être qu'un plus dans notre offre, lorsqu'évidemment tout le monde aura pris la mesure, émission par émission, genre par genre, de l'audience différée. Voilà, donc ça n'est pas du tout pour nous un sujet de préoccupation, bien au contraire.
Très bien, merci beaucoup.
Nous avons une question de M. Julien Roch de Barclays Capital. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonjour Nonce, bonjour Philippe. Tout d'abord à l'américaine Great Quarter Guys. Si je pouvais commencer par les coûts, donc économie de 10 millions sur la grille et au total de 39 millions. Mais Nonce a mentionné que vous aviez adapté vos coûts au chiffre d'affaires au premier semestre. Donc je voulais savoir si on pouvait avoir des objectifs sur l'année. Est-ce qu'il y a plus d'économies au deuxième ou est-ce qu'il y en a moins à cause du phasing? Ça c'est ma première question. La deuxième question, c'est Philippe a dit que les coûts de Santa Ana étaient inclus au premier semestre, donc si on pouvait savoir combien c'était et où c'était dans le compte de résultat. Et la troisième question, si jamais LCI va en gratuit, quid de ce qui a été mentionné dans la presse sur le renouvellement de la diffusion ou le paiement de vos chaînes thématiques, comme quoi Orange aurait mis 20 millions, Free 10 et Bouygues 10, et vous étiez en négociation avec SFR pour remplacer les 65 millions de Canal+. Voilà mes trois questions. Merci.
Merci. Je viens donc sur LCI en gratuit. D'abord, rappelons que LCI, dans son modèle payant jusqu'à aujourd'hui, a eu des résultats d'exploitation finalement assez bons à comparer aux chaînes qui se sont lancées sur le gratuit. Mais maintenant, ces chaînes sont à l'équilibre et on voit bien qu'il y a, et d'ailleurs Canal comme BFM le disent, il y a aujourd'hui, pour l'information, une évidence, c'est que le gratuit est le marché qui s'impose. Donc le fait d'aller voir le CSA et de demander le changement de modèle économique de LCI, au fond, ça nous était à la fois imposé par les circonstances, le fait que Canal ne veut plus reprendre LCI en payant crée une situation économique particulière, et d'autre part, c'est aussi tirer les conséquences d'un marché qui s'est considérablement développé autour de l'info et il y a de la place pour une chaîne info supplémentaire sans que ça déséquilibre le marché. Je rappelle aujourd'hui que LCI capte à peu près, allez, on va dire bon an mal an, entre 8 et 10 millions d'euros sur le marché publicitaire, et que arrivant sur le marché du clair, peut-être LCI captera une vingtaine de millions d'euros supplémentaires, mais en tout cas c'est très peu par rapport à la croissance que l'on constate année après année des chiffres d'affaires sur à la TNT. Alors, s'agissant de nos chaînes thématiques, aujourd'hui, vous le savez, nous étions dans un régime d'exclusivité. Alors, il y a deux sujets qui ont été traités. Le premier, c'était F6 et Série Club que nous partageons avec M6, et ça a fait l'objet d'un accord séparé avec Canal en exclusivité, qui s'est conclu dans de bonnes conditions. Et puis, nous avons d'autres chaînes, c'est-à-dire Eurosport, Ushuaïa, Histoire et TV Braise, qui sont, elles, aujourd'hui, offertes en non-exclusif, ce qui est donc un changement de régime par rapport aux accords que nous avions avec Canal depuis 5 ans maintenant. Et donc, Orange et Bouygues Télécom nous ont fait des propositions très concrètes, chaîne par chaîne. Nous avons des déclarations d'intention, là aussi, très intéressantes par Free et par SFR. Et il nous reste à continuer à discuter avec Canal et bien entendu Numéricable. Donc la discussion se poursuit avec les uns avec les autres et je pense qu'on devra aboutir probablement fin août, en tout cas en septembre. Donc il faut trouver le bon niveau de prix avec les uns avec les autres. Je suis très satisfait de la discussion qu'on a eue avec Orange, aussi avec Bouygues Télécom. Et je pense qu'on devrait arriver à un bilan positif pour nos chaînes thématiques. Vous l'avez vu, elles ont d'excellentes performances. Elles remontent soit dans le ranking des chaînes, soit en termes de qualité de clientèle. Et l'effort éditorial que nous avons fait en revampant toutes ces chaînes ou en repositionnant par exemple LCI prépare bien l'avenir et nous aide bien dans les négociations qui sont actuellement en cours. Voilà, donc moi je n'ai pas d'inquiétude particulière sur ce terrain-là.
Donc, juste pour confirmer, les négociations avec Orange, donc vous êtes satisfait, elles ont abouti et ne comprenez pas LCI.
Si, LCI est aujourd'hui cotée par Orange comme par Bouygues Télécom, parce qu'on ne peut rien exclure de toutes les discussions. Vous savez, on est pragmatique, c'est-à-dire qu'on tirera les conséquences de ces différentes discussions quand on aura abouti avec chacun des opérateurs. Aujourd'hui, le scénario qui semble se dessiner, c'est évidemment que la demande d'agrément auprès du CSA risque de l'emporter par rapport à un bilan économique dont Canal ne serait plus partie prenante. Mais aujourd'hui, je n'exclus rien, si vous voulez. On est vraiment dans un travail qui est un travail pragmatique. Voilà, je ne peux rien vous dire de mieux que ça. Un mot sur l'objectif du coup de grille. Sur le coup de grille, l'objectif n'est pas de le réduire de façon drastique, systématiquement et en permanence. La valeur du produit est aussi donnée par le coût de grille. L'argent n'est pas la seule variable, mais c'est un élément important. Moi, je vous ai dit qu'on avait un objectif de 950 millions d'euros sur deux ans, en moyenne, droits sportifs compris. Il n'y a pas de raison que nous changions cette guidance. Si on peut faire mieux sans altérer le produit, on fera mieux. Si de temps à autre, on doit réinvestir, mais avec les recettes publicitaires correspondantes, on le fera. J'ajoute enfin que pour l'euro, c'est peut-être une question que vous vouliez les uns les autres me poser, pour l'euro aujourd'hui le dossier n'a pas évolué. On avait fait une proposition avec M6 qui a été rejetée par l'UEFA. Nous n'avons pas fait de nouvelles propositions et pour l'instant il n'y a pas de négociation engagée sur ce sujet. Alors maintenant pour Santa Ana, je vais laisser le miracle à Philippe.
Oui, juste avant de passer sur Santa Ana, pour compléter la réponse de Nantes sur les coûts et sur les 39 millions, sur le deuxième semestre et les perspectives, ce que je peux vous dire, c'est le détail de ces 39 millions. Il se compose évidemment d'économies sur les droits de diffusion, comme je l'ai dit tout à l'heure, à hauteur de 11 millions d'euros, et évidemment sur le deuxième semestre, compte tenu du fait qu'il n'y a plus que 4 régions qui n'ont pas bénéficié du switch-off, normalement le montant devrait être inférieur à 11 millions d'euros sur le deuxième semestre, ça c'est mathématique. Le deuxième élément, c'est que nous bénéficions d'une partie d'économie sur le premier semestre liée notamment à la grille d'Eurosport, à peu près pour 6 millions d'euros par rapport à l'an dernier, puisqu'il y a eu des événements importants sur Eurosport, dont la Coupe d'Afrique, des Nations, dont les JO. Et évidemment, ça ne se reproduira pas sur le S2. Troisième élément, Il y avait une base de calcul des taxes qui était supérieure l'an dernier, donc qui nous permet de participer, qui participe à cette économie de 39 millions. Et puis après, il y a des charges variables pour à peu près 17 millions d'euros, qui, elles, par contre, vont s'adapter en fonction des revenus sur le deuxième semestre et qui restent, évidemment, dans le cadre de l'adaptation du modèle économique. Donc voilà un petit peu la décomposition des 39 millions d'économies, qui, évidemment, ne sont pas duplicables sur le S2. S'agissant du sujet miracle à Santa Ana, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a intégré donc la médiation qui a été conclue le 21 juillet dernier, qu'il y a eu un léger ajustement de la provision, mais de façon qui n'est pas significative au regard de la perception du risque que nous avions avant cette médiation, et que sur le plan purement de la prise en compte dans nos comptes, vous savez qu'au 30 juin, la perte de TF1DA s'explique en grande partie par la provision relative à ce litige qui a été transférée, de TF1SA dans les comptes de TF1DA. L'appréciation du risque avait déjà été en grande partie prise au 31 décembre 2010. Voilà ce que je peux dire sur Miracle à Santa Ana.
Merci.
Nous avons une question de M. Jérôme Baudin de Natixis. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonjour, j'avais plusieurs questions. La première, je souhaitais rebondir sur la question sur les prix. On constate que donc l'écart brut net s'est fortement réduit entre le T1 et le T2, à peu près 6 points. Donc je voulais savoir si vous pouviez nous donner une tendance sur le T3. Ma deuxième question, c'est sur Eurosport International. Donc chiffre d'affaires publicitaire manifestement en baisse. Je voulais savoir quel pays avait le plus souffert et si vous pouviez nous donner une petite tendance sur le prochain trimestre. Ma troisième question portait sur NT1. Vous évoquez des résultats en hausse. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous dire à quel niveau de marge cela correspond? Peut-être une fourchette, 0,5, 5, 10, 10, 15. Et même question pour TV Brez, puisque vous avez évoqué une marge relativement élevée pour TV Brez. Et enfin, dernière question sur la chaîne TF1. Si vous deviez quantifier votre visibilité, je sais que ce n'est pas évident, mais comment estimez-vous qu'elle a évolué depuis le début d'année et par rapport à l'année dernière? Voilà, merci.
Oui, un mot sur Eurosport International. En réalité, on est un peu en retard sur le chiffre d'affaires, en particulier parce que, vous le savez, Eurosport a des annonceurs japonais qui sont des annonceurs importants pour Eurosport. Et il ne vous a pas échappé que la crise qui s'est produite au Japon a fait ralentir un certain nombre d'investissements, que ce soit dans le domaine de l'automobile, soit dans le domaine des produits bruns, les téléviseurs en particulier. On n'a pas d'inquiétude particulière sur Eurosport International. Il y a ce retard qui est un retard qu'on pense conjoncturel. En revanche, les abonnements marchent très très bien. Il n'y a pas de pays particulier. On est vraiment sur une publicité pan-européenne. Et donc, aujourd'hui, on est attentif à l'évolution des choses. Mais on pense que, notamment lorsque les Japonais ou les offices de tourisme de certains pays reprendront un peu de vigueur, on va rétablir ça dans de bonnes conditions. Alors sur NT1 et TV Brest, vous savez que classiquement, on ne donne pas les niveaux de marge. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est satisfait de la façon dont ces deux entreprises se développent. NT1, aujourd'hui, acquiert une notoriété nouvelle, est une chaîne qui s'adresse aux jeunes adultes avec une grille qui se conforte de mois en mois, puisque, comme vous le savez, vous avions indiqué qu'en réalité, son régime de croisière nouveau serait plutôt à partir du deuxième semestre de cette année. Il se trouve que, vous l'avez vu dans les chiffres, on est plutôt en avance sur notre plan de marche, sans avoir forcément investi de manière massive sur la grille. Donc, on a devant nous de bons espoirs. Et TV Brez est classiquement non seulement la chaîne qui réussit le mieux sur le câble et sur le satellite, mais c'est aussi une chaîne qui, sur le plan aussi bien publicitaire, évidemment que de ses revenus d'abonnement, est très très positive. Voilà. S'agissant de TF1, quand vous parlez de visibilité, vous me posez la question sur quel terrain? Est-ce que c'est visibilité publicitaire, auquel cas j'ai déjà répondu? Si c'est une visibilité en termes d'audience, je ne suis pas fakir.
Non, ma question portait sur la visibilité publicitaire, effectivement, si on pouvait...
Moi, je vous ai fait la réponse déjà, je n'ai pas à y revenir particulièrement. Sur les prix et l'écart brut net, je vais laisser Philippe répondre, qui est le grand spécialiste de l'écart brut net.
Non, sur l'écart brut-net, ce qu'on peut simplement dire, c'est que sur le T3, notamment à cause de juillet-août, c'est pas la meilleure période pour reprendre de la valeur. Donc, ce qu'on a connu sur le T2, c'est plus compliqué à réaliser sur le T3. Voilà, on est assez prudent sur la tendance de l'écart, notamment sur juillet-août. Sur T3, on va voir ce qui est possible sur septembre.
Merci.
Voilà. Merci.
Nous passons aux questions du côté anglais.
We have a question from Mr. Matthew Walker from Nomura. Sir, please go ahead.
Thank you. Good morning, everybody. Just two questions. The first question is, could you be a little bit more clear on the advertising growth rate for the third quarter so far as you can see it at the moment, and any feeling, early feeling for September? And the second question is, the savings for the full year, I think the market's looking for around $300 million of EBIT for the full year. Given the savings that you've achieved in the first half of the year, are you looking for that $300 million to move up? Thank you.
Oui, merci pour la question. Sur le troisième trimestre, il est trop tôt pour donner les tendances de septembre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, sur le mois de juillet, on a une base de comparaison avec la Coupe du Monde qui ne nous est pas particulièrement favorable. On a une visibilité qui reste très réduite. Je crois que c'est pour l'ensemble du secteur en Europe. Pas de tendance particulière ce septembre. On reste confiant, mais une visibilité encore très réduite. Sur la partie des économies pour l'ensemble de l'année, comme je l'ai déjà indiqué, les économies qui ont été réalisées sur le S1 ne sont pas toutes duplicables ou récurrentes sur le S2, et donc on ne peut pas considérer ce qui a été fait sur le S1 se reproduira de façon identique sur le S2. L'ensemble de l'année, je m'abstiens de communiquer sur les bits. Ce qu'on peut dire, c'est que l'an dernier, d'abord, le T3 avait enregistré une très bonne performance pour la saisonnalité que vous connaissez, puisque nous avions été positifs, et qu'un certain nombre d'économies étaient, en termes de base de comparaison, déjà prises en compte dans le T3 2010. Voilà, donc, c'est je dirais, le commentaire que je peux faire sur votre question des économies sur l'ensemble de l'année.
We have the next question from Mr. Richard Jones from Goldman Sachs. So please go ahead.
I've got a couple of questions on programming. When you think about programming costs going forward and going into next year, given that your audience on the core channel is running down slightly, and that MC's seems to be increasing their programming spend reasonably aggressively, and that France Télévisions seems to have an okay settlement on programming, how does that make you think about what you should be spending on programming for next year in general? And then more specifically, what are you thinking about the Formula One rights? And I think I missed earlier on what you're thinking about potential resale or sharing of the European Championships.
Sur les coûts des programmes pour l'année prochaine, notre stratégie, comme l'a dit Nonce, est de rester d'investir sur nos programmes. C'est vrai que l'environnement concurrentiel est très fort. Donc on veut garder une certaine souplesse par rapport à notre capacité d'investissement dans nos programmes au regard de ce que feront notamment la concurrence sur ce sujet. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de raison de revoir la guidance qui a été donnée et qui nous permet, dans ce cadre-là, de garder évidemment une certaine souplesse pour réinvestir. sur la Formule 1.
Oui, alors sur la Formule 1 et plus généralement sur les droits sportifs, peut-être une réponse un peu plus large. Bon, sur la Formule 1, vous savez que notre contrat court jusqu'à fin 2012, enfin la fin de la saison 2012. Donc ça veut dire que nous avons encore devant nous une saison de Formule 1. Ces contrats ont été conclus il y a déjà bien longtemps, ce qui veut dire que les conditions dans lesquelles ils ont été conclus relèvent d'une autre époque. Aujourd'hui, lorsqu'il faudra revenir à la table de discussion sur ce sujet, évidemment, nous aurons une approche économique sensiblement différente. D'ailleurs, on l'a déjà prouvé, puisque je vous rappelle que sur la Ligue des Champions, nous avons fait baisser les coûts de l'ordre d'à peu près 40%, et que la renégociation du contrat de l'équipe de France a vu une baisse globale sur le contrat de l'ordre de 18%. Donc ça veut dire qu'on n'est pas prêt, et d'ailleurs sur l'euro on le démontre, à être d'abord absent des grands droits sportifs, c'est vrai, mais à des conditions économiques qui doivent être revues par l'univers de concurrence dans lequel nous sommes et par les recettes publicitaires qu'ils génèrent. Donc pour la Formule 1, je ne prends pas de position, on verra. Il y aura peut-être une compétition autour de ça. On verra si on reste attributaire de ce droit. En tout cas, il est clair que ça ne peut pas être aux conditions économiques d'aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire. Mais d'une façon générale, une grande chaîne comme TF1 ne peut pas être absente des grands événements sportifs. Ça fait partie de sa posture de leader, mais ça ne peut pas être fait à n'importe quel prix. Donc c'est un vrai échange que nous avons d'ailleurs avec les fédérations, qu'elles soient internationales ou françaises, pour trouver un optimum économique qui satisfasse les parties. Les fédérations avec des audiences très fortes, puisque vous pouvez le constater, à chaque fois que TF1 diffuse un match de l'équipe de France, ses scores sont bien supérieurs à ceux obtenus par son concurrent quand il diffuse de temps à autre un match de l'équipe de France, ce qui prouve bien que pour les fédérations, être sur TF1, c'est évidemment un atout très important, et cet atout-là ne peut pas être conclu à n'importe quel prix.
Un mot peut-être sur la Coupe du Monde de football. Ça se poursuivra de la même façon ce qu'a indiqué Non, c'est-à-dire qu'on optimisera les droits qu'on détient. Ça sera en fonction, évidemment, des perspectives et je dirais s'il y a des opportunités de revente, et selon le cas, c'est pas exclu, mais on s'adaptera un petit peu en fonction de l'évolution d'ici là de l'optimisation des droits sportifs dans leur globalité.
Oui, rappelons que la Coupe du Monde FIFA a été à la fois un très beau succès d'audience, et c'est aussi une Coupe du Monde qui nous a coûté moins cher que celle de 2006. Ce travail de revente des droits, c'est quelque chose qui n'était peut-être pas imaginé auparavant, mais nous en avons fait presque une philosophie. On le voit bien pour la Coupe du Monde de rugby. Je crois que ça permet d'optimiser les droits, ça permet de maximiser les audiences pour TF1, et de faire en sorte qu'en définitive, sur le marché français, tout le monde soit à peu près satisfait de vivre cet événement-là sur les différentes antennes.
We have a question from Mrs. Catherine O'Neill from Citi. Ma'am, please go ahead.
Hi, just a couple of questions. Firstly, on TF1 core channel and the theme channels in France, the margins were over 17%. I just wondered how sustainable you think this is. And secondly, on Metro in France, I think I read that you were buying in the state you don't have. Is that right? And if so, what's the rationale behind that?
Okay, sur Metro, c'est... Sur la rentabilité de TF1 et des chaînes thématiques, je ferai deux commentaires. La première chose, c'est qu'évidemment, vous le savez, il y a un effet de saisonnalité qui vient du fait que sur le T3, les revenus publicitaires au Q3 sont plus faibles. Et donc, évidemment, la rentabilité sur le S1 va être impactée par l'effet de saisonnalité sur le T3. Et ça, c'est traditionnel et logique. La deuxième chose, c'est que la rentabilité sur les autres chaînes et les chaînes thématiques, il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait des modifications sensibles. La seule chose que l'on peut dire, c'est que en termes de périmètre, nous sommes sur le dernier semestre, on va dire, d'intégration dans le périmètre de TMC-NT1, et donc après, la base de comparaison par rapport à l'an dernier se fait de façon naturelle à partir du 1er juillet de cette année. Voilà ce qu'on peut dire sur la rentabilité et la poursuite de ce niveau de rentabilité sur le deuxième semestre. S'agissant maintenant, je laisse on se répondre sur le rationnel de Metro.
Alors Metro, vous le savez, nous étions co-actionnaires de Metro. Et en fait, lorsque la proposition s'est faite jour d'une reprise de Metro par un tiers, on a considéré que le prix qui était proposé et accepté par Metro International devenait un prix extrêmement attractif pour faire jouer notre droit de préemption. Alors pourquoi avons-nous fait jouer notre droit de préemption? Parce qu'on considère d'abord que Metro est une très belle marque, qu'ensuite c'est aujourd'hui le deuxième quotidien national français. Je rappelle que Metro, c'est 2 400 000 lecteurs, juste derrière 20 minutes qui est à 2 800 000, et devant, assez largement devant Direct Matin qui est à 1 800 000, 1 900 000. Donc c'est vraiment une marque qui a aujourd'hui un public fidélisé. Alors la situation de Metro seul dans un univers où d'un côté le groupe Bolloré, de l'autre côté le groupe Ouest France le supportait, évidemment pour Metro ce n'était pas la meilleure situation possible en termes de négociation. En revanche, Metro adossé au groupe TF1, ça va permettre, je pense, à la fois des synergies sur le plan commercial, je parle des équipes, et d'autre part, ça va permettre à nos annonceurs d'avoir l'assurance de pouvoir bénéficier de tous les canaux de contact que TF1 propose, que ce soit sur la télévision en clair, que ce soit sur la télévision payante, que ce soit sur la digitale, que ce soit sur la radio, puisque nous avons les indépendants, et qui marchent très bien, comme vous le savez, que ce soit avec Metro. Alors évidemment, c'est une entreprise qui a subi le contre-coup de l'arrivée d'un troisième acteur en 2007, qui était le groupe Bolloré. Je pense que c'est une marque, une équipe qui a des atouts, et il me semble, en tout cas, que dans des conditions économiques tout à fait acceptables, on doit être capable de trouver une place de marché et un optimum économique satisfaisant. Donc c'est le travail que nous allons faire. Alors nous sommes en phase de closing. Donc nous n'avons pas encore lancé ce travail, cette réflexion, enfin la réflexion si, mais le travail concret sur les synergies n'est pas encore lancé, mais ça va se faire très très vite, et les collaborateurs de Metro sont évidemment très satisfaits de voir arriver un actionnaire comme TF1, ce qui décuple leur motivation, ce qui est toujours bon.
Nous avons une question de M. Andrea Beneventi de Chevreux. Monsieur, c'est à vous.
Bonjour monsieur, merci d'avoir répondu à la plupart de mes questions. Il m'en reste une importante au sujet de votre outlook qui me semble plutôt prudent. Y a-t-il des segments d'annonceurs sur lesquels vous voyez une amélioration des visibilités? Je fais référence en particulier à retail et automobile où la visibilité reste faible partout.
Écoutez, c'est bien difficile de faire des pronostics. Je crois que on va avoir de bonnes surprises du côté des telcos, parce qu'ils ont été très en retrait sur ce premier semestre. La bagarre va s'annoncer extrêmement forte entre eux à partir de la rentrée, avec sans doute l'arrivée d'un nouvel opérateur qui s'appelle Free. Autant nous avons souffert de la recomposition du paysage du fixe avec les fusions que nous avons vues s'opérer, autant l'arrivée d'un nouvel opérateur et le dynamisme d'ailleurs des alternatifs, des MVNO, fait que je pense que nous allons avoir sans doute une bien meilleure activité, davantage d'investissements publicitaires de leur part à ce moment-là. Alors pour le reste, c'est bien difficile de faire des pronostics. L'entretien a été très en retrait. Tout ça dépendra évidemment de l'évolution des consommations. Et c'est surtout le publishing qui a été, lui, très très en retrait. Tout ce qui est de l'édition a beaucoup souffert au premier semestre. Traditionnellement, au second semestre, l'édition revient plus en force. Donc on verra dans ce secteur d'activité comment il va évoluer. Je rappelle que l'année dernière, on avait été boosté aussi par un mondial de l'auto qui ne sera pas là cette fois-ci. Mais bon, pour l'instant, l'automobile et le transport se portent plutôt correctement. Donc on n'a pas d'inquiétude particulière. Non, sans doute le dynamisme viendra des telcos, je pense.
C'est très clair. Merci beaucoup.
Nous avons une question de M. Thomas Verella de Dow Jones. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous redonner le montant de la provision que vous aviez passé pour Miracle à Santa Ana et éventuellement le montant précis que vous avez accepté de payer à Spike Lee et à la société de production? Voilà, c'est ma seule question. Vous avez répondu aux autres, merci.
S'agissant de Miracle à Santana, nous ne communiquons pas le montant, pour des raisons liées notamment à la médiation et l'accord qu'on a pris. Ce que simplement on peut dire, c'est qu'il est sensiblement inférieur au montant de la condamnation, puisque c'est la logique de la médiation, mais nous ne communiquons pas sur le montant. Voilà, sur la provision globale, elle était en ligne avec le montant de la médiation sur lequel nous avons abouti, à quelque chose de non significatif.
D'accord, mais le montant de la provision, est-ce que vous pouvez nous le redonner ?
Non, parce que si je vous donne le montant de la provision et que je vous dis que c'est à peu près pareil que le montant D'accord. de l'accord, vous aurez le montant de l'accord. Donc je ne vais pas vous donner le montant de l'accord ni le montant de la provision.
D'accord, merci. Et alors sur le fond du litige, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences qui existaient entre le scénario qui avait été approuvé initialement et le film le produit fini, et ce qui a expliqué votre refus de le diffuser. Qu'est-ce qui vous a choqué dans le film final?
Bon, pour faire simple, parce que c'est une très longue histoire et je vais essayer de résumer pour votre bonne compréhension. Le premier écart, c'est un écart de durée, puisque le film qui a été proposé était de 2h35, alors que nous avions à départ un deal mémo qui prévoyait une durée de 2 heures, avec les conséquences que ça a, notamment en matière de distribution et en matière évidemment de perspective de commercialisation. Donc le désaccord au départ portait sur la durée. Nous avons obtenu finalement une version courte, et la version courte, dans l'appréciation qu'on pouvait avoir de cette version courte au regard du scénario de base, était différente. Maintenant, je ne veux pas revenir sur un sujet qui a fait l'objet d'une médiation et qui, à travers des propos qui pourraient être déplacés, pourrait recréer des différends entre les parties. Donc vous comprendrez bien que, sur la base de cette médiation, voilà la base du litige de départ, notamment en termes à la fois de durée et d'appréciation par rapport au scénario de base. Nous avons trouvé un compromis entre toutes les parties. Nous en sommes parfaitement satisfaits aujourd'hui. Et donc ce sujet ne doit plus être un sujet ni polémique ni de discussion pour nous.
Très bien, je vous remercie.
Nous n'avons pas d'autres questions.
Très bien, bah écoutez, merci d'avoir été là. Je voudrais simplement vous dire en conclusion que, d'abord, on a été sensible à vos félicitations, évidemment, mais que l'entreprise reste tout à fait mobilisée à la fois autour de ses activités pour les faire progresser dans le bon sens, mais aussi mobilisée pour faire en sorte que sa gestion soit toujours aussi rigoureuse et, je l'espère, porteuse de progrès pour l'avenir. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances et puis on se retrouvera évidemment pour d'autres résultats très bientôt. Au revoir à tous et à toutes et merci.
Mesdames et messieurs, ceci conclut la conférence. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez à présent vous déconnecter. Excellente journée à tous.